Bonjour.
Merci. Voilà, je suis Jean-Philippe. Ouais, bah c'était pas facile. Est-ce qu'il y a des moments faciles? On relativise tout, hein. Bah, c'est la vie, quoi.
Pardon.
La vie dans un monde brisé. Heureusement qu'on a Dieu, hein. Heureusement qu'on a Dieu. On se rend compte, plus on va de l'avant, on est jeune, 18-20 ans, c'est la fête, tout va bien. Puis, plus on a des responsabilités, plus on grandit, plus on se rend compte combien on est vraiment brisé, puis qu'on a vraiment besoin de Jésus, quoi. Donc ouais, c'était pas facile. On attend le quatrième. Donc la vie. Donc je sais pas si ça va être plus facile. Non mais c'est vrai qu'on venait de déménager sur Mérin aussi, je crois, quand on était venu, hein, on était tout neuf à Genève. Donc voilà, il y avait une transition, il y avait un bébé, il y avait beaucoup de choses. Là, on est quand même un petit peu mieux posé. On est aussi un petit peu plus âgé. Alors je sais pas, je crois que ça rajoute dans la difficulté, mais on se prépare gentiment. Le bébé vient en août, fin août. Voilà. On croit que chaque enfant est un nouvel espoir pour le monde. Donc on va pas s'arrêter de faire des bébés parce qu'on est dans une pandémie. Au contraire, il faut qu'on continue de faire des enfants, je crois. Enfin voilà, c'était un choix de famille. Il arrive de toute façon. Donc voilà, il est là. Donc on a déjà quatre enfants. Ben ouais, Jeunesse en Mission va bien. On travaille beaucoup au Pâquis dans cette saison, en collaboration avec la paroisse des Buis et puis l'église missionnaire. On dirige des soirées de louanges et d'intercession pour le quartier. On travaille pas avec les prostituées, mais on travaille à rejoindre les prostituées. Une de nos collaboratrices a commencé des études bibliques avec une femme qu'ils ont sortie de la rue, justement. Donc c'est super, voilà, il y a quelques fruits qui viennent. On se réjouit beaucoup. Je suis toujours très impliqué avec Interjeunes, Interjeunes Genève. On a dirigé la formation jeunesse sur Genève cette année. Il y a plus de 40 responsables de jeunesse qui ont été formés en 2020. Voilà, ça c'est super, c'est des belles choses qui se passent quand même. On fait encore plein de choses, hein, bien sûr, mais c'est un petit peu les grosses choses qui se passent en ce moment. Ça va vous? Ouais, en ligne, je vous vois plus, mais j'espère que ça va aussi. J'ai vu qu'il y avait un ou deux Jamiens qui étaient là aussi sur Zoom. Ben ouais, Covid quoi. Alors on parle tout le temps du Covid. Hein. Je me demande si c'est pas une raison pour laquelle on n'est pas si déprimé, puisque la Bible nous dit de nous concentrer sur ce qui est beau, excellent et pur. Et à force de parler de trucs qui tuent des gens, je me demande si c'est pas quelque chose qui est une manière de communiquer qu'il faut changer. Mais le fait est que c'est vrai que c'est une saison qui est difficile, et peut-être vous avez entendu ou pas ces paroles, mais beaucoup au début, il y a une année en arrière en fait, hein, littéralement. Certains disaient qu'on ne rentre pas dans une tempête, mais on rentre dans un long hiver froid. Certains d'entre vous ont entendu ça, peut-être. Bon, moi je suis à Gem, il y a toujours mille et une paroles qui viennent, ça bouge très vite, c'est très international, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que la différence entre une tempête, la tempête elle vient la nuit, ça passe 2, 3 jours, puis c'est terminé. L'hiver froid, il s'installe. Et puis, il faut avoir du bois en réserve, il faut chauffer la maison sur du long terme, il faut réfléchir comment on va même changer nos habits sur du long terme, parce que dans un long hiver, on a beaucoup moins d'habits pour l'été, est-ce qu'on les met dans des cartons? Donc il y a des choses qui changent en fait dans notre manière de faire. Et puis, en hiver, c'est aussi difficile de faire pousser des fruits, parce qu'il fait froid et puis qu'il n'y a rien qui pousse. Et pourtant, je crois que la Bible nous donne une solution pour rester vert toute l'année. Et cette solution est dans le psaume 1. Voilà ce que ça dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc ici, on est dans un long hiver où il n'y a rien qui pousse et pourtant, Dieu nous dit, c'est possible d'être un arbre vert toute l'année. Qui ne porte pas des fruits nécessairement toute l'année, mais qui reste vert. Et je crois qu'il y a des clés que Dieu veut nous donner, parce qu'on est dans une saison où il y a tellement de manque d'espoir autour de nous, il y a tellement de râleries, de complaintes, on ne sait plus qui écouter, on ne sait pas s'il faut se faire vacciner, il y a un changement monétaire incroyable qui est en train de se passer aussi avec la crypto-monnaie. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs sur les trams, ils commencent à faire de la publicité avec ça. C'est incroyable. Il y avait quatre symboles sur un wagon de tram. Le premier, c'était un dollar. Dans le deuxième, il commence à brûler. Dans le troisième, il explose. Et puis le quatrième, c'était marqué crypto-monnaie. Demandez-nous des conseils. Alors, le message est clair, quoi. Donc voilà, il y a tellement de choses qui sont en train de changer. Est-ce qu'on est complètement manipulé par les médias? Est-ce qu'on est complètement manipulé par les médias sociaux? Où est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va? Et pourtant, ici, Dieu nous dit, plantez vos racines et restez vert. C'est-à-dire qu'au milieu d'un hiver où les gens sont perdus, où les gens meurent autour de nous, on peut rester vert. Et être un exemple de qui Christ est, par l'espoir qu'on a en nous, par la confiance qui vit en nous. Alors c'est quoi cette clé dans ces versets? Parce que ça commence, hein, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Je crois que ça, c'est le caractère que Dieu veut qu'on ait. Voilà comment vous devez vivre. Et comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on arrive à ne pas faire partie de comment les gens ils agissent dans ce monde? Et le verset 2, il dit « Il trouve son plaisir dans la loi d'Éternel, qu'il la médite jour et nuit. » Et je crois que quand on parle de loi de l'Éternel à ce moment-là, on ne dit pas les 10 commandements. On ne va pas méditer les 10 commandements jour et nuit pendant toute notre vie. D'accord? Ni la Torah. Je crois que Dieu est en train de nous dire, je vous ai donné un mode d'emploi que vous devez lire, que vous devez étudier, sur lequel vous devez méditer tous les jours, toutes les nuits, avec ferveur et sans s'arrêter. Et qu'est-ce qui arrive à cet homme-là? Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dans le feuillage ne fait tripoint. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alors moi j'aimerais bien parler un petit peu de la parole, parce que j'ai été super défié dernièrement par ce livre. Il s'appelle Prière, écrit par Timothée Keller. Peut-être certains de vous connaissent, c'est un orateur célèbre, écrivain. Je ne sais pas si le livre existe en français. Je vous conseille de le lire, c'est incroyable. Et dedans, il parle de méditation. Alors Timothée Keller, il est presbytérien. Il croit que Dieu parle qu'au travers de la parole. D'accord? Alors moi qui suis jamien, parfois un petit peu trop dans les nuages, ça m'a fait beaucoup de bien de revenir et de me dire « Ok, oui, Dieu parle aussi au travers de la parole. » D'accord? Donc essayer de trouver une bonne tension entre les deux. Mais quand on parle d'étudier la parole, d'aller profond et de la méditer, je crois que Timothée Keller a vraiment beaucoup de bonnes choses à dire. Je vous encourage à lire. Donc voilà, il y a pas mal de choses dont je vais parler ce matin en fait, qui viennent de trucs que j'ai découvert dans ce livre, qui ont changé ma manière d'approcher la parole. Pourquoi? Si je dis que la lumière soit dans cette chambre, je suis obligé de faire une action qui va avec et d'aller presser le bouton. Juste, on peut essayer, hein. Lumière, éteins-toi. Ah ben, avec Internet, on peut tout aujourd'hui. La technologie nous permettrait de le faire, mais je crois qu'on reste fini dans notre manière par rapport à un Dieu qui est infini. D'accord? Par contre, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la parole de Dieu, elle ne peut pas échouer parce que parler et agir ne sont qu'un. Vous me suivez? Jusque-là, ça va, hein. Amen, hein, c'est trop bien. Le Dieu de la Bible est par nature quelqu'un qui agit par sa parole. Et puis la Bible, quand elle fait référence à la parole, elle nous parle de sa présence active dans le monde. Je la tiens dans les mains. Hein. Vous avez déjà lu la Bible à haute voix, partout où vous allez? Et donc de dire que la parole est active est la même chose que de dire que Dieu est actif. Donc il y a quelque chose d'actif là-dedans. Certains d'entre vous faites de la fermentation, du levain, du pain, de la bière, du vin. Il y a un agent actif à l'intérieur. Il y a un agent actif à l'intérieur qui fait que quand on le met dans des aliments, ça se transforme. Ça grandit, ça pousse, on fait de l'alcool, ça mange le sucre, ça le transforme en probiotique. Voilà, il y a mille et une manières. Moi, je fais beaucoup de fermentation, beaucoup de pain, du vinaigre, plein de choses. C'est un petit peu une passion chez moi. Et cette idée de transformation, elle est juste incroyable parce que c'est un petit agent actif qui a l'air petit, dans ce cas-là, qui fait qu'on le met dans une solution, dans de l'eau, dans n'importe quoi, mélanger du miel et de l'eau, et vous verrez que vous créez de l'hydromel. Pourquoi? Parce qu'il y a des agents actifs dans le miel. Ça se transforme en alcool, d'accord? Et qui va permettre de créer une transformation. C'est quoi l'agent actif dans la parole? La vérité. Quand on la médite, cette parole qui est active, on la presse dans nos cœurs jusqu'à ce qu'elle fasse une transformation qui est en nous, qui est active, qui fait qu'on a des feuilles vertes toute l'année. Donc les actions verbales de Dieu sont une extension de lui-même. On peut donc dire que de briser un commandement, c'est de briser une relation, puisqu'il est la parole, elle est incarnée. Et les implications sont énormes, parce que si on met notre confiance dans ce qu'il nous dit dans la parole, on met notre confiance en lui. Confiance en la parole, c'est communion avec lui, ces racines qui vont dans l'eau et qui permettent un feuillage vert toute l'année. Est-ce que vous méditez la parole? Est-ce qu'on passe assez de temps dans la parole? Pour moi, c'était une révélation juste de lire dans ce livre où il dit « Si je dis « lumière soit », je dois presser le bouton. » Mais Dieu dit, lui, « Que la lumière fut, la lumière était. » Ça a fait un « pfff ». Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne la lis pas plus? Donc, comprendre les Écritures, ça ne veut pas dire seulement de trouver des informations à propos de Dieu. Ça veut dire rencontrer Dieu pour qui il est. J'ai remarqué une différence que ça a créée en moi. C'est que pendant longtemps, j'avais des thèmes en tête. Et quand je lisais la Bible, ce qui m'intéressait, c'était le thème que je voulais étudier. Mais je n'étudiais pas Dieu. J'essayais pas de comprendre Dieu. J'essayais pas de connaître Dieu vraiment dans sa parole. J'essayais de continuer d'aller plus loin dans un thème qui me semblait important pour Dieu. Un thème qu'il m'avait mis à cœur d'enseigner ou d'étudier. Et puis là, dernièrement, j'ai commencé à relire Ézéchiel. C'est pas forcément le livre le plus facile. Mais vous savez quoi? J'ai jamais eu autant de plaisir à lire ma Bible. Parce que plutôt que d'essayer de comprendre vraiment... Alors, je pense que c'est bien, il faut avoir une étude de contexte, d'accord, pour comprendre ce que Dieu dit, à qui il le dit, à quel moment il le dit, et pourquoi il le dit à ces gens-là comme il le dit, pour qu'on puisse le prendre pour nous. Mais je suis en train de découvrir Dieu dans sa sainteté et sa justice, dans sa patience, parce qu'il est lent à la colère, mais aussi dans sa colère, parce qu'il ne dit pas qu'il n'a pas de colère, il dit juste qu'il est lent. Et ça fait des choses en moi, littéralement, où ça me travaille d'aller chercher Dieu et de me dire, ok, qui est Dieu dans ce texte que je viens de lire aujourd'hui? Et là, je me fais 15 chapitres sur Dieu qui punit. En même temps, je suis en train de découvrir Dieu. Et il y a une beauté là-dedans qui est incroyable. J'avais eu un enseignement, une méditation une fois par un moine, ce qui était incroyable. Il a commencé par dire, qu'est-ce qui se passe quand on regarde le soleil pendant longtemps? Ensuite, partout où on regarde, on voit le soleil. Parce qu'on a les taches du soleil qui sont devant nos yeux. Donc c'est la même chose avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde Dieu, quand on médite Dieu, quand on contemple Dieu pendant longtemps? Partout où on regarde, on le voit, on le porte. Et c'est cette vérité active en nous en même temps qui nous presse, qui nous transforme, qui nous fermente. Donc Luther avait une manière très simple de méditer la Bible et j'aimerais vous donner ça comme exercice aujourd'hui. Et puis je ne sais pas combien de temps il me reste, je ne suis pas très bon avec le temps. Et puis il avait 4 points quand il lisait la parole. Le premier, c'était: qu'est-ce que Dieu veut dire dans sa parole? Quelle est l'instruction? Alors forcément, ça nous pousse un petit peu à faire des études, à aller rechercher un petit peu, à lire un livre qui décrit le contexte du livre qu'on est en train de lire. Voilà, quelle est l'introduction du livre de Matthieu? Qu'est-ce que Dieu dit particulièrement dans ce chapitre? Donc, voilà, des fois, ça va nous pousser, je pense aussi, à étudier un petit peu la Bible puis à aller rechercher des informations. Mais à qui est-ce que Dieu parle? Quel est le contexte? Est-ce qu'il parle à des pharisiens, Jésus, ou est-ce qu'il parle à ses disciples? D'accord. Et c'est super important parce que si on ne fait pas ce travail, on a un risque de vivre dans une réalité qui est différée. Et finalement, qui on pense que Dieu est, ou ce qu'il dit, ça va avoir une immense influence sur même comment on prie ou comment on agit. C'est pour ça qu'on a des problèmes avec l'évangile de la prospérité, par exemple. Parce qu'on entend Dieu qui nous dit « je vais te bénir si tu fais toutes ces choses ». Mais on n'entend pas le Dieu qui dit « ouais, mais aussi si tu me suis, tu n'auras pas de maison, tu n'as nulle part où poser ta tête, il va falloir que tu portes ta croix, tu vas souffrir, on va te jeter des pierres et puis on va te maltraiter dans les synagogues et ah, puis tu mourras ». Est-ce que ne pas bien faire ce travail-là serait une des raisons pour lesquelles on n'a pas de bonne réponse à nos prières? Parce qu'on prie des choses qui sont en dehors de la réalité que Dieu nous donne, de la réalité de qui est Dieu. On demande des choses à Dieu qu'il ne peut pas nous donner, parce que ce n'est pas en lien, ce n'est pas en ligne avec qui il est. Et on pense que Dieu ne répond pas, alors qu'en fait, on ne fait pas notre travail de le connaître. Qu'est-ce que Dieu veut révéler de qui il est dans le texte que je lis aujourd'hui? Point numéro 2, quand on a fait ce travail, on prend un temps de reconnaissance. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu dis, merci pour les gens que tu as mis autour de moi. Si on imagine le Notre Père et qu'on médite sur « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », merci pour les gens qui donnent. Merci parce que tu me permets de donner. Merci pour le partage. Il y a mille et une choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Point numéro 3, est-ce qu'on a des confessions à faire? Seigneur, je lis Ézéchiel et je me rends compte que tu es tellement saint et que j'ai encore tellement d'idoles dans ma vie. Permets-moi, Seigneur, de revenir à toi pleinement, un cœur plein et pas un cœur divisé. Seigneur, j'ai besoin de ta sainteté. Et ça, c'est le quatrième point. Ça nous amène à une prière. C'est une méditation qui nous amène à prier. Seigneur, rends-moi plus saint et aide-moi à faire que ce monde devienne plus saint. Et on peut, à partir de là, commencer à prier pour les gens autour de nous, pour les choses qu'on a à cœur. Ça a du sens, tout ça? Je me suis dit que j'allais prendre un exemple concret pour faire avec vous aujourd'hui. Zachée, c'est dans Luc 19. Je vais le lire. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je le lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est rentré chez toi aujourd'hui, dans cette maison, parce que celui-ci est un fils d'Abraham. » Pardon, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc pour moi, c'est une histoire qui est toujours intéressante parce que déjà, Zachée, c'est mon école du dimanche. C'est la chanson du petit homme. Donc, pour moi, d'aller dans ce texte, il a fallu d'abord me dire, OK, quelles sont les choses que j'ai reçues en tant qu'enfant, qui sont très concrètes, qu'il faut que je débranche, puis je me dis, OK, qu'est-ce que Dieu essaye de me dire aujourd'hui? Parce que je suis resté pendant près de 40 ans sur une idée du petit Zachée sauvé, ce qui n'est pas faux. Et peut-être que Dieu a beaucoup, beaucoup de choses à dire au travers de ce texte, mais une fois je lisais ce texte, et puis j'ai posé la question à Dieu, je dis, Seigneur, c'est quoi la question ici? Et Dieu m'a dit, qui était Zachée? Ça m'a poussé à faire des recherches. En fait, Zachée était tout en haut de la chaîne des responsables des impôts. D'accord? Donc Jésus, en allant chez lui, en lui apportant le salut, l'a fait rendre de l'argent à tous ceux qu'il avait volés. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a exposé la corruption de toute une région. Alors bien sûr, il y a le salut d'une personne. Mais qu'est-ce que cela me révèle sur qui est Jésus? Que Jésus est intéressé au monde de l'économie. Que Jésus est intéressé à sauver ceux qui sont tout en haut du monde de l'économie. À changer la corruption. À remettre en ordre les finances de toute une nation ou de toute une région. Si Jésus il avait changé la vie ce jour-là, d'un homme qui était au deuxième rang, il n'y aurait jamais rien qui aurait changé. Quand il dit « car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu », je crois forcément qu'il pense à Zachée. Est-ce que l'économie n'était pas perdue? Et parce que l'économie est perdue, du coup, ça a une influence sur tous les pauvres de la région aussi. Déjà, on les vole, et en plus, on n'a pas d'argent à leur donner. Est-ce que Jésus, dans cet acte, n'est pas beaucoup plus grand que sauver la vie d'un petit homme qui est sur un arbre? Reconnaissance. Seigneur, merci parce que tu es tellement intéressé à cette société. Seigneur, merci parce que tu es intéressé à comment je vis mes finances. Confession. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles je suis corrompu? Est-ce que je t'ai obéi avec mes finances? Est-ce que j'ai donné à qui tu me demandais de donner? Est-ce que j'ai pris soin du pauvre moi-même? Seigneur, donne-moi une conviction des choses que tu veux changer dans mon cœur aujourd'hui. Seigneur, est-ce que tu me demandes d'approcher les dirigeants de l'économie sur le canton de Genève aujourd'hui? Et que je ne l'ai pas fait. De peur. Est-ce que j'ai eu peur, Seigneur? Est-ce que j'ai la crainte de l'homme? Prière. Seigneur, on te remet aujourd'hui nos dirigeants. On te remet aujourd'hui ceux qui sont corrompus et qu'on ne connaît même pas, qui sont peut-être des petits hommes sur un arbre qu'on aurait tendance à même pas regarder, mais qui te cherchent néanmoins, qui sont eux venus te voir. Seigneur, viens changer le cœur de ces hommes aujourd'hui. Un exemple très court, très bref, de comment mettre ces quatre points en œuvre dans un texte. D'accord? Alors, je crois que Dieu peut révéler tellement d'autres choses au travers de ce texte. D'accord? Je ne suis pas en train d'éliminer, parce que de traverser la Bible en bateau, ou alors on peut plonger pendant des années pour chercher les petites caves et découvrir à chaque endroit. D'accord? Mais je crois que Dieu veut nous amener plus loin alors qu'on médite sa parole, alors qu'on veut le connaître lui dans qui il est, alors qu'on fait notre travail d'aller le chercher. Et qu'avec lui, dans cette reconnaissance, cette confession, on presse cette vérité dans nos cœurs de qui il est. Seigneur, tu es un Dieu juste dans la vie de Zachée, tu es un Dieu juste dans la vie de la société. Tu as des principes pour les finances qui sont en place pour une raison. Et on commence à connaître Dieu, on commence à connaître de nouvelles choses sur qui il est. Et au-delà de ça, on a un message pour l'Église. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. C'est une énorme promesse. Il y a quelque chose qui est incroyable avec Dieu, c'est que Dieu ne demande pas, Dieu commande. Dans l'idée de commandement, il y a communauté, il y a communion, il y a communication. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Dieu ne nous demande pas de méditer sa parole. Il nous le commande parce qu'il le fait avec nous. J'ai entendu quelqu'un une fois dire... que Dieu est le meilleur et le pire pour jouer à cache-cache. Parce qu'il se cache pour qu'on le cherche, mais il ne se cache pas bien pour être sûr qu'on le trouve. Et moi, je suis défié à chercher Dieu beaucoup plus dans sa parole et à le trouver. Parce qu'il veut qu'on le trouve, c'est sa promesse. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais je crois qu'il y a des clés pour notre saison aujourd'hui. Et encore plus dans la saison dans laquelle on arrive. Je crois qu'on arrive dans cette saison avec plus de faux prophètes, pour être honnête. Il faut qu'on la connaisse, cette parole. Il faut qu'on la presse dans nos cœurs, il faut qu'on la fasse fermenter en nous pour cette transformation et pour ce que Dieu veut faire. Comment est-ce qu'on va faire pour ne pas s'asseoir sur le banc des méchants, s'arrêter avec les moqueurs? On va méditer la parole. Comment est-ce qu'on va faire si on veut rester vert toute l'année? Il faut qu'on médite la parole, il faut qu'on contemple Dieu dans sa parole. Ça fait une semaine que ma machine à laver ne marche pas bien. Et il y a de l'eau qui remonte, du coup ça sent les égouts, bleh. Okay. Ça fait une semaine que ma femme elle me dit « T'as lu la notice ?» Petit moment d'humilité. Non, toujours pas. Ça fait une semaine que je trouve des moyens bizarres pour enlever cette eau et puis régler le problème. Hier matin tôt, j'avais un petit peu de temps, mes enfants dormaient. Je regardais la télé pour certains. Je me disais, je vais quand même une fois lire le mode d'emploi. S'il y a de l'eau qui reste à la fin, faites ceci, ceci, cela. Ah ouais, c'était pas compliqué en fait. Il fallait juste que j'aille lire le mode d'emploi. Parce que on peut essayer de trouver des autres moyens. Hein. On va éponger l'eau. Ça revient, ça sent pas bon. Le lendemain, on essaie quelque chose d'autre. On essaie un rinçage qui fait partir l'eau, mais ça revient. Et la solution, elle est là. Il faut lire le mode d'emploi. Et l'eau s'en est allée. Est-ce que tu arrives à projeter les quelques questions, s'il te plaît? Avant que je prie. Ok, question. Qu'est-ce que vous entendez Dieu vous dire ce matin? Question numéro 2. Quelle est votre relation à la parole? Et question numéro 3. Qu'est-ce qu'il vous manque pour aller plus loin dans votre découverte de la parole? Qu'est-ce que vous entendez Dieu vous dire? Quelle est votre relation à la parole? Qu'est-ce qui vous manque pour aller plus loin dans votre découverte de la parole? Seigneur, moi je te prie que tu nous fasses de nous un peuple de la parole. Un peuple de la parole vivante et active en nous. Seigneur, moi je veux te demander pardon pour le nombre d'années où j'ai décidé de ne pas lire le mode d'emploi. Ou de le lire pour essayer de trouver les choses qui m'arrangeaient, plutôt que de vouloir te connaître personnellement. Seigneur, je te prie que tu emmènes cette église dans une saison de feuilles vertes toute l'année. Dans une saison où, quelle que soit la saison, les feuilles sont vertes. Seigneur, merci parce que tu veux faire de cette église un ambassadeur de ton royaume qui porte tes valeurs, ta vérité, ton salut, ta transformation, ta joie, ta guérison. Seigneur, merci parce que tu veux nous pousser à te connaître toujours plus. Ouais, je te remercie pour ta grâce dans ce processus. Aide-nous à te connaître, Seigneur. Amen.